Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Clémentine Proutot. Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 16h30, bienvenue sur Microcité, votre émission d'actualité hebdomadaire. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble 90.8. Elles ne veulent plus de violences sexistes et sexuelles en politique. Lundi, près de 300 femmes ont publié une tribune dans le quotidien Le Monde. Elles demandent plus d'exemplarité, moins de sexisme dans le monde politique. On en parle dans le dossier de la semaine avec Gwendoline Langlois et son invitée. Pour les personnes avec un handicap, qu'il soit physique ou mental, trouver du travail ressemble généralement au parcours du combattant. Pour sensibiliser à cette injustice, une semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées est organisée depuis lundi. L'occasion de présenter le restaurant d'insertion professionnelle Le Napoléon à Grenoble. Anouk Caron nous y emmènera, vous l'entendrez en fin d'émission. Mais avant ça, l'actualité avec Agathe Legrand. Bonjour Agathe.
Bonjour Clémentine. Fini les 80 km/h sur les routes iséroises, c'était la proposition de Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental. Elle a été adoptée ce matin, nous y reviendrons dans ce journal. Au sommaire également, le fléau du harcèlement scolaire, il touche 700 000 élèves chaque année en France. La fréquentation en baisse dans les cinémas en raison de la crise sanitaire. Et puis, la sortie très attendue en France du nouveau Superman. Joe Biden, le président américain hospitalisé pour une coloscopie sous anesthésie générale, un examen de routine selon la Maison-Blanche. Pour la première fois de l'histoire, une femme sera pour quelques jours à la tête des États-Unis puisqu'il confie ses pouvoirs à sa vice-présidente Kamala Harris. Le bilan de santé du président, qui fêtera ses 70 ans demain, sera publié dans l'après-midi. L'Autriche reconfine dès lundi, il faut regarder la réalité en face, c'est ce qu'a déclaré le chancelier autrichien Alexander Schallenberg. La vaccination contre le Covid sera, elle, obligatoire à partir du 1er février. La situation s'aggrave partout en Europe. Les Belges, vont devoir télétravailler dès la semaine prochaine. Quant à la Suède, elle instaure un pass vaccinal. En France, le nombre de classes fermées en raison du Covid est au plus haut, 4048 classes au total, c'est 3000 de plus qu'avant les vacances de la Toussaint. Je vous rappelle que la fermeture intervient dès qu'un cas positif est détecté. Les 90 km/h sont donc de retour en Isère. Le conseil départemental a voté aujourd'hui la proposition de son président, LR Jean-Pierre Barbier, une mesure qui divise tant au sein des associations que des automobilistes. Cette décision, Alain Frécinet, vice-président de l'Automobile Club Dauphinois, l'attendait depuis longtemps.
Simplement, en fait, nous, on est persuadés que ça ne servait à rien en termes de sécurité et pas plus en fait en termes de pollution.
Du côté des automobilistes isérois, la vie est plus partagée.
Bon, sûr qu'il n'y a pas de grosse différence, moi je suis pas contre.
Moi je suis bien comme c'est en ce moment. Ça va un peu plus lentement, puisqu'on peut faire un peu plus attention, du coup, voilà, c'est tout.
50, 30, c'est trop. C'est trop. C'est pas assez vite, c'est pas assez rapide.
Je suis pas contre le fait qu'on la repasse à 90. Alors après, quel est l'impact qu'on peut avoir s'il y a un accident?
Justement, Gaspard Michardière, directeur régional de la prévention routière, a la réponse.
Une personne qui roule à 80 km/h va mettre 13 mètres de moins à arriver à l'arrêt total de son véhicule dans le cas d'un freinage d'urgence. Donc une différence entre 80 et 90 km/h, ce qui va permettre de transformer un choc en un freinage d'urgence.
Selon un rapport, grâce à la mise en place des 80 km/h, 349 vies ont été épargnées en 2 ans, même si le nombre d'accidents, lui, n'a pas baissé.
C'était un reportage d'Agathe Legrand. Il est 16h34 sur Radio Campus Grenoble. La suite du journal avec vous, Agathe.
La joggeuse de 17 ans, portée disparue pendant 24 heures la semaine dernière, a avoué avoir passé la nuit chez sa grand-mère. Et donc ne pas avoir été enlevée, rien n'indique pour le moment que la grand-mère était présente dans son logement. Les 200 policiers avaient été mobilisés pendant les recherches. Nous ne lâcherons pas nos pêcheurs, a affirmé Emmanuel Macron il y a quelques minutes, alors que les négociations sur la pêche sont tombées à l'eau. Annick Girardin, la ministre de la Mer, avait promis ce matin des indemnisations pour les pêcheurs qui n'auraient pas reçu leur licence. De son côté, le secrétaire d'État aux affaires européennes... a assuré que la France allait continuer de demander 150 à 200 autorisations. Un élève sur 10 est victime de harcèlement à l'école, un chiffre inquiétant, et c'est pour cela qu'une journée nationale de lutte contre ce phénomène avait lieu hier. L'association Arrow Even propose des formations pour les professeurs, les parents et les élèves eux-mêmes. Flora Cacciali est responsable du secteur éducation-formation de l'association à Grenoble.
On va former des élèves à faire des médiations sur la gestion des conflits. Ce qui est bien, c'est de les rendre acteurs de la prévention, puis ça permet que cette prévention elles ne viennent pas tout le temps de l'adulte, qu'elles viennent aussi de paroles d'élèves, entre élèves, etc. Quand on est à cet âge-là, on est dans des dynamiques de groupe et c'est normal puisque socialement, ils se construisent. Les problèmes du harcèlement, c'est que souvent, ils sont pris dans une dynamique. Et souvent, ce qui est insurmontable, c'est que personne ne dit rien alors que tout le monde observe cet élève en souffrance. De pouvoir repérer ça, c'est pas si simple en fait pour un adulte. Il y a quand même de moins en moins de psychologues scolaires, d'infirmières scolaires, etc. C'est comment, en fait, on prend en charge aussi le harcelé, le harceleur, et c'est pas si simple.
Flora Cacciali de l'association Arrow Even au micro de Léa Bouvet. Une prise en charge que le gouvernement souhaite renforcer avec une amélioration du contrôle parental, une sensibilisation au numérique ou encore plus de solutions d'accueil. Une application pour aider les victimes à dénoncer les violences sera également lancée, en plus du numéro d'urgence déjà en service, le 3018. Le taux de chômage est quasiment stable au troisième trimestre alors qu'il était attendu à la baisse. Il reste donc à 8%. 6 mois après leur réouverture, les salles de cinéma n'ont pas toutes retrouvé leur public d'avant-crise sanitaire, avec une baisse de fréquentation d'environ 22%. Clémentine Proutot est allée prendre la température dans les salles de l'agglomération grenobloise.
Dans 2 heures, ça va être sur son bureau. Puis avant ce soir, je vous gage qu'on a un appel.
Nous sommes dans l'une des salles du Pâté des Chirolles avec Lionel Delamotte, son directeur d'exploitation.
C'est compliqué. On avait connu une belle reprise mi-mai. Et dès la mise en place du pass sanitaire, forcément, on a eu une nouvelle chute des entrées qui sont en baisse de moins 31% pour le Pâté des Chirolles. Et puis on est à 22% sur le Pâté Chavant qui bénéficie de films plus porteurs sur le centre-ville qu'ils ne le sont pour nous.
Pass sanitaire, développement des plateformes de streaming. Pour les spectateurs, les raisons sont nombreuses de déserter les salles obscures. Thierry, 57 ans, est l'un d'entre eux.
C'est un peu par rapport au Covid. Comme les taux remontent, on préfère rester à la maison.
Alors, pour attirer à nouveau du public, Julie De Palma, la directrice du club à Grenoble, a trouvé des solutions.
Ce qu'on note, c'est que les spectateurs se motivent beaucoup pour des événements, donc que ce soit les festivals ou des ciné-débats qu'on peut organiser et autres. Et puis on a quelques films qui arrivent là pour la fin d'année qui vont sans doute mobiliser aussi du public.
Le club attend donc la sortie prochaine du film de l'actrice et réalisatrice Emmanuelle Berco, De son vivant, ou encore M'adresse parallélas de Pedro Almodovar.
De son vivant, le film d'Emmanuel Berco sort mercredi prochain et pour M'adresse parallélas, il faudra attendre le 1er décembre. La nouvelle BD Superman est sortie il y a une semaine aux États-Unis et les ventes s'envolent. Un nouvel album dans lequel le héros embrasse un homme sur la bouche et fait donc son coming out bisexuel. En France, les fans sont impatients, comme l'explique Claire, libraire à la Momie à Grenoble.
Dans le monde du comics, en fait, il y a déjà eu des héros avec une appartenance à la communauté LGBT, mais jamais autant médiatisé et surtout pas un héros majeur du rang de Batman, de Superman. Mais on a quand même de la demande de la représentation, de la diversité. On essaye de faire un peu attention à ça. Enfin, la communication a déjà été tellement énorme qu'il y a déjà du monde qui est venu nous voir en nous demandant si on savait un peu plus, si on savait quand est-ce qu'il sortirait, s'il allait être traduit. Et honnêtement, ça arrive presque jamais que quelqu'un nous demande un livre avant même qu'il soit paru en anglais. J'ai eu personne qui est venu râler en me disant qu'il voulait pas voir ce livre dans la librairie. De toute façon, je pense qu'on l'aurait engueulé. Mais non, au contraire, les clients sont vraiment curieux de voir ça et les lecteurs ont envie de voir ça, en fait.
La bande dessinée sort le 11 février en France. La 14e journée de Ligue 1 débute ce soir. Monaco reçoit Lille, coup d'envoi à 21h. Demain, le Paris Saint-Germain affrontera Nantes avant le choc Lyon-Marseille dimanche soir. En Ligue 2, Grenoble affrontera Valenciennes demain.
Et on vous retrouve pour le rappel des titres en fin d'émission, Agathe. Il est 16h40, vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble. Et dans un instant, le dossier de la semaine sur la tribune MeToo Politique. Marie Coiffard, conseillère municipale Europe Écologie Les Verts à Saint-Martin-d'Hères et l'une des signataires, elle sera avec nous.
En couleur sur la carte, bye.
Quoi? Ils veulent me donner de la force, ils sont impuissants. Je suis devant un paquet d'osées, ça appétissant. Tu m'as prise pour ta putain de mère. J'ai vu leur gueule, ça m'a mis sur les nerfs. Un bif, je suis content de le faire. Elle m'arrive pas à la cheville. Elle monte sur ses grands chevaux. 5 étoiles, c'est mon train de vie. Toi, t'as poil sur les réseaux. Bras long, t'as pas Rolex, t'as pas coup d'extincteur. Je vais te faire danser comme une chaga. C'est du rap ou d'arabe.
C'est du rap champagne. C'est le juice dans mon jus, tu baignes. Je fais des sous pas là pour faire la belle. T'es accro comme à la cocaine. J'ai du ice, mais je suis hot. Parle bien, je suis pas d'abord. Toujours clean, j'ai trop la code. Je fais du sale, mais je fais ça propre. La petite, t'as personne dans le rap, je suis la baronne. Je fais crier ton daron, je fais kiffer ta daronne, bitch. Je suis la trappe maman, donc t'es mon fils. Numéro 1, t'es numéro 10. Trop de flow dans ma tête, qu'on est 10. Crois pas qu'on est bitch, j'ai cramé ton fils. Bitch, bitch, bitch. Mon dieu, je suis condamné à mourir riche.
Et si ça drip, ça flex. De Brésil à Paris.
T'as la rage comme mon ex.
Et si ça drip, ça flex.
De Paris à Libreville.
Ici, on compte les fesses.
Vie, on envoie des flammes, on est pyro. Comme chez qui n'a rien, qu'on brûle tout. Bars, on en a des kilos. Mais bon, à skip, ça fait pas tout. Sous-côté, mais je suis dans le top 10. J'ai ce que je vaux, j'ai les capacités. Font ami-ami sur le Netflix. Et par chinois, quand il faut te citer, j'ai pas besoin qu'ils me plébiscitent. J'ai qui et qui, donc ils me suivent. Tu me verras jamais dans des baisers. Toujours en team, toujours en équipe. Derrière mon dos, sont là comme le dossard. J'dois toujours en faire plus. On fout la merde comme paradis sur Mars. Comme ça qu'on exécute. J'suis dans le rap quand je veux, j'flex. Passe partout comme le 4-4. La DT haute, pas de complexe. Faux rappeurs dans le 4. J'arrive avec la fougue, le flow, ils sont en danger. L'avenir sera radieux si tout se passe bien, on passe en radio.
J'suis dans la cuisine, je whip, j'ai le flow et la technique. Oh, ah,
that's right.
Je rebondis sur le kick. Quand on déboule en équipe, je les vois tous qui paniquent. Oh, ah, dans tes yeux, je vois que tu flippes.
Ah, oh, ici ça drip, ça flex. Ah, oh, de Brésil à Paris.
Ah, oh, t'as la rage comme mon ex.
Ah, oh, 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 ah, oh, ici ça drip, ça flex.
Ah, oh, de Paris à Libreville.
Ah,
ok. Vous écoutiez Aou, une collaboration des rappeuses Chilla, Bianca Costa, Davinor, Le Juice et Vicky R, un titre dont les coulisses de l'enregistrement ont été filmées par Canal+ dans le documentaire Rennes pour l'amour du rap, un reportage qui met en avant la nouvelle génération de rappeuses francophones dans un monde encore jugé très masculin. Microcité continue, il est 16h43.
Le dossier de la semaine.
Bonjour Gwendoline Langlois. Des affaires d'agressions sexuelles dans le monde politique surgissent régulièrement dans l'actualité. Lundi dernier, dans les colonnes du Monde, des femmes ont décidé de dire stop.
Et oui Clémentine, la fin des violences sexistes et sexuelles en politique, c'est en effet ce que demandent les 285 femmes signataires de cette tribune. Alors Léa Bouvet, c'est une nouvelle vague MeToo ?
Oui, et le message des signataires est clair. Je cite « Les agresseurs sexuels n'ont pas leur place aux élections présidentielles et législatives de 2022. Elles sont élues locales ou nationales, collaboratrices parlementaires ou encore journalistes et dénoncent dans cette tribune une véritable omerta et appellent le monde politique à une réponse d'ampleur face aux violences sexuelles et sexistes. » Une réponse qui, selon elle, commence par faire preuve d'exemplarité, c'est-à-dire ne pas investir, ne pas parrainer et ne pas embaucher de personnes mises en cause pour harcèlement ou violence sexiste ou sexuelle. Depuis cette tribune, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux avec le hashtag MeTooPolitique. Une pétition pour faire réagir les décisionnaires a déjà réuni plus de 5000 signatures en 4 jours. Elles appellent enfin à participer à la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui aura lieu le 25 novembre et à rejoindre dès demain les marches organisées un peu partout en France par le collectif féministe Nous Toutes.
Léa Bouvet. Bonjour Marie Coiffard, vous êtes conseillère municipale à Saint-Martin-d'Hères et co-responsable de la Commission nationale sur le féminisme d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez signé la tribune MeTooPolitique. Pourquoi ?
Eh bien d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée pour pouvoir en parler. C'est un sujet, alors pour Europe Écologie et pour la Commission Féminisme, qui est important en tant que tel. Donc comme je suis responsable depuis cet été, c'est forcément un sujet sur lequel j'ai commencé à m'investir déjà auparavant. Je faisais partie du bureau. C'est un sujet qui me touche personnellement et c'est un sujet qui nous touche collectivement avec les copines militantes. Parce que, en fait, des violences sexuelles et sexistes, moi, je ne connais pas de femme militante qui n'en ait pas vécu. Alors, à différents degrés, évidemment, il y a des choses tragiques, dramatiques, qui sont vraiment des agressions qui peuvent aller jusqu'au viol. On en a beaucoup entendu, effectivement, depuis le début de la semaine, par le biais de Twitter ou des témoignages qui sont revenus comme ça, de choses horribles, notamment dans des moments festifs, en fait, où on célèbre le fait d'être avec les copains militants politiques.
Et du coup, c'est parce que vous avez été témoin, qu'on vous a rapporté ces agressions, que vous avez décidé de signer cette tribune ?
Alors, déjà, oui, parce que depuis que je suis engagée en politique, et donc depuis un certain nombre d'années maintenant, j'ai pu voir, enfin malheureusement, j'ai plein d'exemples en fait, de cas très concrets, de copines en particulier, qui ont été agressées, que ce soit verbalement ou sexuellement. Mais c'est aussi, alors moi j'ai la chance, je le dis tout de suite, de jamais avoir été agressée physiquement. Donc c'est plus de ce point de vue-là par solidarité, mais c'est aussi par responsabilité, parce qu'en fait, les violences dans le monde politique, sexuelle et sexiste, comme dans le reste de la société, c'est un continuum. Donc par contre, même si j'ai jamais été agressée physiquement, je connais les violences sexuelles symbolique, sexiste, symbolique, qui consiste à me dire qu'en fait, en tant que femme politique, je suis jamais à ma place.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sexisme en politique. Vous pouvez donner des exemples ?
Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y en a plus ou pas que dans le reste de la société. Moi, ce que je dirais surtout, c'est qu'en fait, en politique, on attend des gens qui soient exemplaires. En fait, si on est investi, si on nous délègue une partie des décisions publiques, ça veut dire qu'on est censé être exemplaire sur plein de champs différents. Dans des exemples, en fait, c'est aussi la façon dont la politique, aujourd'hui, elle est construite. Aujourd'hui, les gens qui ont la parole, par exemple, dans un conseil municipal, c'est souvent les présidents de groupe. Alors, j'aimerais bien dire « et les présidentes de groupe », mais en l'occurrence, moi, par exemple, à Saint-Martin-d'Hères, sur 6 groupes, je suis la seule présidente. Donc forcément, mécaniquement, dans un conseil ou dans une arène politique, plus il y a d'hommes, plus c'est les hommes qui prennent la parole. Et en fait, c'est même pas proportionnel. Il y a beaucoup plus de temps de parole dédié aux hommes, enfin utilisé par les hommes, que utilisé par les femmes, beaucoup plus que même leur présence numérique, on va dire.
Donc au-delà de cette différence entre la présence d'hommes et la présence de femmes, est-ce que vous avez déjà été témoin en tant que militante, puis en tant qu'élue, d'agissements sexistes ? C'est quoi par exemple un agissement sexiste en politique ?
Un agissement sexiste, alors je vais peut-être plus parler du point de vue des militants politiques. Un agissement sexiste, c'est par exemple que systématiquement, quand on organise en fait, la vie militante, quand on a des responsabilités internes dans un parti, c'est toujours les femmes qui s'occupent des réunions. C'est toujours les femmes qui s'occupent de savoir s'il va y avoir à manger, d'organiser la salle, d'appeler les gens, de faire en sorte en fait, que le truc fonctionne à la fin. Et par contre, c'est souvent les hommes qui vont prendre la parole et qui vont s'attribuer en fait, ce mérite-là. Ou qui vont s'attribuer en fait, l'espace politique. Donc on voit vraiment cette répartition des rôles. Elle est très présente, elle est présente dans plein de partis, elle est présente aussi chez ELV. En fait, on a aujourd'hui seulement 30% des adhérents qui sont des femmes. Donc, il y a plein de, donc ça explique une partie des déséquilibres. Mais en fait, le vrai problème, c'est pourquoi ? Pourquoi, alors qu'on est 50% de la population, il n'y aurait que 30% de femmes chez les adhérents ? C'est bien qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le milieu, quoi.
Oui, mais là, du coup, on s'écarte un peu de la tribune qui, elle, est plus sur les violences sexistes, ouais. Sexistes et sexuelles. Pour vous, ça fait partie, ça, des violences sexistes et sexuelles, le fait qu'il n'y ait pas le même pourcentage, la même présence d'hommes et de femmes aux responsabilités politiques ?
Oui, ça en fait partie, parce qu'en fait, c'est la cause. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes ? C'est parce qu'elles ne se sentent pas à leur place, parce qu'en fait, l'archétype aujourd'hui de la personne politique, c'est un homme. homme. C'est un homme blanc, c'est entre 40 et 50 ans, éduqué, etc. Donc à partir du moment où on ne correspond pas, et du coup c'est vrai aussi pour d'autres, dans d'autres sphères de domination, où on ne correspond pas à ça, on est sans cesse renvoyé, on fait qu'on n'est pas la bonne personne pour l'investiture. Et ça, on le voit dans les candidatures. Par exemple, donc, dans le cas des départementales, c'était des investitures paritaires, des binômes, on était obligé d'avoir un homme ou une femme. On voit à quel point ça a été difficile d'avoir des candidatures de femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de militants, on l'a dit, mais c'est parce qu'elles n'ont pas envie de s'exposer à la violence en fait, du milieu. Et c'est la violence qu'on a en réponse au fait d'être une personne publique, être une femme publique, et être un homme public, ce n'est pas la même chose. On ne se prend pas la même charge de violence, que ce soit sur Twitter, que ce soit face aux gens dans la rue, que ce soit face aux autres hommes politiques, en fait, qui vont sans cesse commenter nos tenues, nos façons d'être. « Ah, bah, aujourd'hui, tu t'es bien habillée, c'est parce que tu as quelque chose d'important à dire. » Mais d'où, en fait ? D'où, moi, je commente ta cravate pour savoir si c'est important ou pas ce que tu dis, quoi. Et ça, les hommes se le permettent en politique.
Et c'est donc pour ça que vous avez choisi, de ce qu'on comprend, de signer cette tribune. Bon, c'est pas le cas de tous les élus de la région grenobloise. On a demandé leur avis. Tous n'ont pas été invités à ratifier cette tribune. Et puis, de toute façon, ils ne l'auraient pas forcément fait. On écoute donc Cécile Pro, référente La République En Marche d'Isère, Alexis Joly, conseiller municipal Rassemblement National des Chirolles, et Anan Mansouri, responsable des Jeunes Républicains en Isère.
Moi, j'ai pas du tout été sollicitée qu'elle fasse une tribune pour le dénoncer dans la perspective des prochaines échéances, je dis c'est très bien. Parce que ce sont des choses qui, en général, sont très, très enfouies, ou bien tout le monde savait, mais personne n'en parlait, parce que vous comprenez, il est comme ça, on sait bien, etc. Ça, c'est pas possible. Je constate avec effarement à quel point ce sujet-là n'est pas réglé, notamment à gauche, puisque vous avez vu que les élus qui sont signataires sont toutes des élus de gauche, en sachant que la REM, depuis 2 ans maintenant, a mis en place un dispositif interne pour justement lutter, écouter, entendre et agir si de telles actions étaient constatées.
C'est une tribune qui est orientée politiquement, je pense, qui tente de se substituer aussi à la justice et qui englobe aussi, je pense, tous les hommes, qui considèrent que tous les hommes peuvent être des prédateurs sexuels, et ça n'est pas le cas. La grande, très grande majorité des hommes défendent les droits des femmes. Moi, je pense que chaque personne, en tout cas chaque responsable, doit avoir la liberté d'embaucher ou de fréquenter des personnes qui sont accusées de ces faits qui sont évidemment condamnables.
Déjà, c'est pas dans l'essence de la droite de mettre en place ce genre de mode d'action pour dénoncer quelque chose. C'est quand même un combat qui est très politisé. La démarche, je peux la comprendre et elle est tout à fait louable. Après, je pense pas que ce sera vraiment quelque chose qui fera bouger les choses, notamment la revendication de vouloir écarter des candidats au présidentiel. Il y a la présomption d'innocence et ça, c'est l'une des bases de notre système juridique. Donc ça me paraît quand même important de passer par un jugement avant d'avoir une sentence en fait, sur quelqu'un.
Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Marie Coiffard ?
Il y a plein de réactions possibles, mais enfin, celle sur laquelle je voudrais me concentrer, c'est juste, oui, d'accord, tous les hommes ne sont pas des agresseurs, mais en fait, l'essentiel des agresseurs, c'est des hommes, l'essentiel des personnes agressées, c'est des femmes. Il n'y a pas de sujet, en fait, là-dessus, et il n'y a pas à se sentir menacé. En fait, on dénonce quelque chose qui est problématique. Si vous reconnaissez que c'est problématique, alors il n'y a pas à se sentir menacé. Si tout le monde se sent menacé du fait qu'on réclame qu'il n'y ait plus de violence sexuelle ou sexiste, posez-vous des questions, en fait, puisque le problème, il est là. Et c'est pour ça que c'est difficile de lutter, en fait. C'est parce qu'aussi, il y a une forme de déni qui est très forte. Si c'est si difficile de lutter contre ce sujet, c'est parce qu'on se rend compte, inconsciemment peut-être, je ne sais pas, mais de l'ampleur du problème. En fait, il est diffus, il est très important. Il y a pas une fête, une grande fête politique où il n'y a pas un sujet comme ça, en fait.
Mais pour rester justement sur la question de l'inclusion ou de l'exclusion dans cette tribune, pourquoi dans les signataires, il n'y a personne de la droite et du centre, concrètement, c'est des personnalités politiques de gauche. Pourquoi ?
Alors, ça, il faudrait demander aux initiatrices de la tribune. Nous, je sais qu'on l'a reçue et qu'on l'a diffusée sur notre liste, qui est une liste mixte, hein, en plus, de la commission féministe. Après, je ne pense pas que ce soit un problème non plus que... c'est une lutte d'autonomie. À un moment, c'est les personnes concernées qui signent pour un sujet qui les concerne.
Donc, vous, concrètement, vous l'avez diffusée à d'autres élus du conseil municipal, pas forcément qu'à gauche, de ce que je comprends, de tous les partis politiques.
Non, je parlais au sein de la commission féminisme. Ça, c'est quelque chose qu'on a diffusé. Ouais.
Ok. Du coup, est-ce que c'est plutôt, vous me disiez, un problème qui concerne les personnalités à gauche ou c'est juste qu'elles n'ont pas été sollicitées ?
Je ne pense pas que ça concerne particulièrement les... Enfin, plus... Il n'y a pas plus de problèmes, en fait, dans les partis de gauche. Par contre, je pense qu'il y a effectivement une sensibilité qui est forte, un historique, en fait, de construction d'outils pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes qui est très fort. Nous, on a une cellule d'enquête depuis plusieurs années au sein d'Europe Écologie Les Verts, notamment après l'affaire Baupin, je pense que ça, tout le monde s'en souvient. Et donc voilà, il y a une sensibilité qui est très forte.
Toujours sur ce sujet, pourquoi ne pas avoir sollicité d'hommes et faire une tribune non mixte ?
Mais les hommes peuvent tout à fait diffuser cette tribune. Je ne vois pas où est le problème, non, mais puisque signé, ce sont des alliés.
Pourquoi il n'y a pas d'hommes signataires de cette tribune ?
Il y a d'autres tribunes. Là, c'est une tribune de femmes qui viennent dénoncer quelque chose pour elles-mêmes.
Et dernière question assez rapide. Dans cette tribune, vous appelez au boycott des candidats, je cite, « mis en cause pour des violences sexistes et sexuelles ». Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on n'investit pas les candidats qui sont mis en cause. Enfin, c'est oui, vraiment là pour le coup hyper transparent. L'idée, c'est pas de se substituer à la justice, c'est qu'en fait, on a des critères de transparence sur d'autres sujets, sur des sujets fiscaux, sur des sujets financiers, sur des sujets d'affaires. Pourquoi on n'a pas de critères de transparence sur les violences sexuelles et sexistes ?
Oui, mais donc mis en cause, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mise en examen ? Ça veut dire soupçonné ? Ça veut dire accusé ?
Eh bien, mise en examen, c'est très clair. Après, je pense que pour tous les autres degrés, en fait, il faut qu'il y ait un processus. Ça peut pas être quelqu'un lève le doigt et dit pas cette personne. Ça peut pas être ça, parce que ça, c'est pas la justice, on est d'accord. Mais une mise en cause, pour qu'il y ait une parole de victime pardon, qui se libère, c'est qu'il y a quelque chose.
Donc mise en cause, ça veut dire mise en examen.
Ça, c'est sûr que c'est mise en examen. Et je pense que ça peut aller plus loin. En fait, ça dépend. Si on a 10 personnes qui mettent en cause quelqu'un, ça sort pas de nulle part. Donc à un moment, il faut se poser des questions.
Merci Marie Coiffard. Donc je le rappelle, vous êtes conseillère municipale à Saint-Martin-d'Hères et co-responsable de la Commission nationale sur le féminisme d'Europe Écologie Les Verts.
C'était le dossier de la semaine de Gwendoline Langlois. L'émission Microcité continue sur Radio Campus Grenoble. Il est 16h56.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
8 personnes sur 10 avec un handicap mental n'arrivent pas à trouver du travail en France. Pour remédier à ce problème, sensibiliser les entreprises, une semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées est organisée depuis lundi. Mais il existe quand même certains secteurs où trouver un emploi est possible. C'est le cas de la restauration. Reportage d'Anouk Caron au Napoléon à Grenoble.
Bonjour. En cuisine, c'est Benoît Besançon le chef. Il dirige une équipe de 5 cuisiniers, déficients mentaux ou porteurs de trisomie 21, comme tous les salariés du restaurant.
Donc nous, on est un restaurant d'insertion. On les forme en vue de satisfaire le client, parce qu'on a quand même un restaurant qui est ouvert au public.
À quelques mètres de lui, Franck est en train de préparer les entrées.
C'est salade composée, qui est composée de salade, champignons farcis et du bleu de Vercors. Tous les clients, ils adorent ça.
Dans la pièce d'à côté, Léa s'occupe des desserts à l'aide de son iPad.
Y a les ingrédients, et après il y a les quantités aussi, et après il y a les étapes.
Donc une fois que tu as fait une étape, tu coches, c'est ça ?
C'est ça, jusqu'à que pour avoir ça en fait. C'est les résultats que je dois avoir.
On a développé un site intranet de façon à pouvoir avoir toutes nos recettes sur iPad, avec quelque chose qui est assez ludique et simple à utiliser.
Pour accueillir des travailleurs handicapés, l'établissement devait répondre à plusieurs critères. Avoir une cour s'est avéré être un élément indispensable lors des visites.
Quelque chose qui nous permettait de pouvoir être à l'écart des clients, pouvoir discuter, prendre une pause, se reposer, était quand même très important.
On trouve que c'est un endroit où on se sent bien et on se sent chez soi.
Sophie Lafont est présidente de l'association.
Et en même temps, on s'est dit, avec notre projet de mettre en lumière les personnes handicapées, des personnes avec une déficience intellectuelle, pour montrer qu'ils ont des compétences et qu'ils ont un rôle dans notre société, on s'est dit, ce lieu, c'est là qu'il faut être.
Un lieu idéal pour les 3 jeunes serveuses qui peuvent apprendre à leur rythme.
Je m'appelle Lorraine, je suis serveuse à l'auberge Napoléon depuis 2 ans. J'ai fait plusieurs stages dans la restauration, notamment en salle, et ça me plaît beaucoup, ça m'a plu, donc j'ai découvert ma voie, c'est-à-dire service.
Moi, je m'appelle Morgane et j'ai adoré aussi le service et aussi le bar.
C'est Jessica Herbin et moi aussi j'aime bien la clientèle, j'aime tout.
Eva, la chef de salle, est satisfaite.
On voit une énorme progression de la part des travailleurs de quand elles ont commencé il y a 2 ans à maintenant. Il y a une évolution très impressionnante pour toutes les 3. Donc c'est très gratifiant du coup de voir qu'elles arrivent à évoluer et pas qu'elles restent à un niveau constant.
Aujourd'hui encore, les personnes en situation de handicap mettent deux fois plus de temps que les personnes valides pour trouver un emploi.
On a réussi quelque part. J'espère que ça continuera longtemps.
C'était un reportage d'Anouk Caron à Grenoble et maintenant le rappel des titres d'Agathe Legrand.
Microcité, en direct jusqu'à 17h.
Le président américain Joe Biden a confié aujourd'hui ses pouvoirs à sa vice-présidente Kamala Harris pour quelques jours. À la veille de ses 79 ans, il s'apprête à subir une coloscopie sous anesthésie générale. Rouler à 90 km/h sur les routes iséroises, c'est pour bientôt. Le conseil départemental a voté la mesure ce matin. Actuellement, une quarantaine de départements maintiennent encore la limitation de vitesse à 80 km/h. La joggeuse de 17 ans, portée disparue pendant 24 heures en Mayenne, a avoué être allée chez sa grand-mère et ne pas avoir été enlevée.
L'émission Microcité s'est terminée pour cette semaine. On remercie Louis Oscovin et Sarah Paulet à la technique. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à bientôt.